Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis. Bonjour Denis Siffer.
Bonjour.
Votre regard, Gaza, quand une information chasse l'autre, vous revenez sur les accusations israéliennes concernant la participation d'une dizaine d'employés de l'UNRWA aux attaques du Hamas du 7 octobre en Israël, et sur la réaction de nombreux États.
Oui, parce que ce qui m'a étonné, ce n'est pas tant l'implication éventuelle d'employés de l'UNRWA, qui est donc l'agence en charge de l'aide aux réfugiés palestiniens depuis 1949 qu'elle existe, cette agence. Ce n'est pas tant ça, avec le Hamas, ce n'est pas tant ça qui m'a étonné. C'est possible, vu l'implication, je dirais, sociale et quotidienne du travail de cette agence dans un territoire qui est gouverné par le Hamas. Mais la rapidité avec laquelle les États-Unis et une bonne dizaine d'États occidentaux ont emboîté le pas à Israël pour suspendre l'aide à cette agence, à l'UNRWA. Et ça m'a beaucoup étonné, alors même que l'UNRWA avait diligenté une enquête, qu'il s'agissait de 10 ou 12 employés sur 13 000, et qu'on ne sait pas quel est le résultat de l'enquête, on ne sait pas quel est le degré d'implication de ces gens dans la complicité que Israël reproche leur reproche. Et donc ça me semble tout à fait étrange dans cette hâte, cette précipitation, au moment où l'aide de l'agence aux Gazaouis est plus vitale que jamais. Donc c'est vraiment d'un acharnement sans fin, et ça discrédite aussi tous les discours pseudo-humanitaires des capitales occidentales.
Et la France a eu une réaction beaucoup plus mesurée.
Plus mesurée, plus tardive, plus hésitante sans doute aussi, mais finalement emboîter le pas quand même aussi aux États-Unis. Enfin, c'est effectivement, ça n'a pas été en première ligne dans cette affaire qui n'est pas très glorieuse.
Vous rappelez que cette agence onusienne, l'UNRWA, est l'ultime bouée de sauvetage pour les Gazaouis victimes d'une catastrophe humanitaire.
Oui, c'est là, dans la situation actuelle, c'est le seul vecteur, disons, d'aide aux Gazaouis. Donc la privée de financement, bon, on peut se dire que c'est une suspension qui va peut-être revenir sur leur décision, etc. Mais c'est une concession à Netanyahou qui n'était pas nécessaire, disons, en ces temps où le rapport de force est tellement disproportionné.
Et vous revenez dans votre regard sur le verdict de la Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud.
Oui, parce que ce qui m'a étonné, effectivement, c'est, peut-être que ça explique l'empressement américain et des pays occidentaux à d'un seul coup retirer le financement de l'UNRWA, c'est la concomitance des deux événements. C'est le jour même où le verdict de la Cour internationale de justice est tombé, qui est quand même un jugement qui est sévère pour Israël, c'est ce jour même que l'affaire de l'UNRWA a éclaté, et le retrait du financement a été rendu public. Et on ne m'enlèvera pas d'idée, Dieu sait si je ne suis pas complotiste, si j'ai horreur de ces mécanismes de pensée, que quand même on a voulu effacer, disons, l'impact de l'information concernant le verdict de la Cour internationale de justice. Et de fait, c'est comme ça que ça s'est passé dans nos médias audiovisuels, la plupart d'entre eux en tout cas, où on a très peu parlé de la Cour de justice, beaucoup plus de l'affaire de l'implication éventuelle, et sans qu'on sache vraiment encore de quoi les employés de l'UNRWA dans l'attaque du 7 octobre.
Si les juges n'ont pas appelé explicitement un cessez-le-feu, soulignez-vous, ils ont invité Israël à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens de la bande de Gaza ont un besoin urgent.
Oui, alors sur le génocide, c'est pas si clair que ça non plus, c'est-à-dire que je ne pensais pas dire que la Cour allait accuser Israël de génocide, mais en tout cas, la Cour demande à Israël d'éviter de façon imminente le risque de génocide. C'est-à-dire quand même qu'elle considère qu'on est tout près d'une situation de génocide. On n'y est pas, mais on s'en rapproche. Donc c'est extrêmement sévère aussi pour Israël. Et puis il y a en effet ce que vous soulignez, c'est-à-dire la demande, disons, de humanitaire, je dirais, prendre des mesures pour permettre à la population gazaoui d'être, disons, ravitaillée en aliments, en eau potable, probablement aussi en fioul pour les hôpitaux, etc. Et si il n'y a pas eu en effet un appel au cessez-le-feu proprement parlé, on imagine bien que toutes ces mesures, pour qu'elles puissent véritablement être prises, sont pas compatibles avec les bombes qui se déversent sur Gaza. Donc on n'est pas loin non plus de l'appel au cessez-le-feu. Bon, c'est tout à fait habituel dans le discours juridique, hein, ce genre d'institution pratique, disons la litote, hein, c'est-à-dire qu'on atténue les formules, mais on n'en pense pas moins, si j'ose dire, et tout ça doit être quand même lu entre les lignes.
Vous déplorez un élément, ce sont moins les faits qui importent, déplorez-vous, que l'écho qu'il aurait donné dans les médias audiovisuels.
Oui, alors ça c'est pas propre, disons, à la tragédie de Gaza, hein, c'est souvent le cas, mais effectivement, du coup, disons, ce que j'ai identifié, moi, quand même comme une manœuvre par rapport de propagande par rapport à la décision de la Cour d'appel de justice, a fonctionné avec la complicité, je dirais, objective des grands médias audiovisuels français en particulier, qui ont très très peu parlé de verdict, et beaucoup beaucoup parlé, qui ont fait des unes ou des lancements d'informations sur la question de la complicité, que je qualifie toujours moi d'éventuelle, des employés de l'UNRWA avec le Hamas. Donc ça a fonctionné, et c'est souvent le cas. Il y a une frilosité par rapport, disons, à tout ce qui peut toucher à Israël. Je cite d'ailleurs mon ami Charles Anderlin, qui dans son livre donne de nombreux exemples de cette nature, où on lui a demandé de mettre un peu en veilleuse, disons, des reportages sur la souffrance des Palestiniens, au prétexte que ça alimentait l'antisémitisme. Je crois que c'est un très mauvais calcul, parce que les sources d'information sont maintenant multiples, elles ne sont pas toujours d'ailleurs très fiables, et on justifie plutôt avec ce genre de recommandations l'idée selon laquelle finalement on cacherait des informations et que l'information serait sous influence. Et c'est ça qui peut le plus produire de l'antisémitisme.
Charles Anderlin, que vous mentionnez dans votre regard dans Politis, Gaza, quand une information chasse l'autre. Merci, Denis Sieffer.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.